Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Saïd Assadi du 360 Paris Music Factory. Bonjour Saïd.
Bonjour et merci.
Bienvenue sur So Sweet Planet dans ce contexte très compliqué pour les lieux culturels et j'ai pu observer en vous suivant sur les réseaux sociaux que vous déployez une énergie phénoménale pour continuer à faire vivre ce lieu que vous portez, ce lieu de musique, de culture et d'ouverture qui fait même bien plus que ça. On va en discuter dans la deuxième partie de cette interview. Donc on va en reparler en détail, mais j'aimerais bien que tu nous parles déjà, puisque je t'ai demandé... Si tu as accepté de le faire avant qu'on commence l'interview, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours pour reprendre les choses au début, puisque le 360 Paris Music Factory, si j'ai bien compris, c'est un peu le fruit et l'aboutissement de ce très beau parcours que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dès le début, peut-être même en remontant un peu avant ton arrivée en France pour qu'on comprenne bien tout ce qui porte aujourd'hui ce que tu as construit?
Oui, merci beaucoup. En effet, oui, je suis né à Téhéran en 1955. Évidemment, quand j'étais étudiant, comme beaucoup d'autres étudiants iraniens, on se posait la question sur la démocratie dans notre pays. Évidemment, pour la part, nous étions mécontents de l'absence de la démocratie à l'époque du Shah. L'âge de 20 ans, j'ai eu l'occasion, pendant mes études, de prendre une sorte de stage au Kurdistan iranien, où je suis parti pour passer 3 mois, mais j'étais tellement surpris de la culture de ce peuple que je suis resté un an. Un an parce que quand on est né de Téhéran, à l'époque en Iran, même aujourd'hui, il y a une sorte de sentiment de supériorité culturelle qui règne par rapport à d'autres minorités culturelles en Iran, qui sont assez nombreuses. Nous avons les Kurdes, nous avons les Turcs, nous avons des Turkmens, nous avons des Lors, nous avons des Baloutches. Il y a pas mal même nous avons dans le sud du pays, une minorité arabe. Donc, il y a toutes ces minorités qui sont très, très nombreuses. Évidemment, c'est une richesse incroyable, mais pour peut-être des raisons politiques, souvent, il y a une sorte de sentiment de supériorité qui est alimenté à Téhéran, parce que nous étions aussi dans un pays très centralisé. Téhéran, c'est le capital, tout se décidait au capital, d'ailleurs aujourd'hui aussi. Alors, donc, quand je suis arrivé au Kurdistan, j'ai découvert une culture incroyable, surtout à travers le chant, la musique, la danse, qui était présente d'une façon quotidienne dans la vie des gens.
Tu étais déjà dans le domaine artistique quand tu dis que
absolument.
Tu étais parti en stage ou pas du tout?
Alors, moi, j'ai jamais fait de la musique. En revanche, j'appartenais à un groupe de théâtre qui était engagé à l'époque du Shah, où nous préparions des pièces de théâtre qui, pendant 3 mois, 4 mois, pour juste diffuser pendant 48 heures. C'est-à-dire, nous avions peur de la police politique, ça va qu'à l'époque, parce que c'était des pièces engagées avec d'autres étudiants et collègues et metteurs en scène. Et nous les préparions et après, on se donnait 48 heures pour diffuser au moins 6 fois par jour et en circulant les informations bouche à l'oreille pour que les uns les autres viennent voir, avant que le SAVAK, la police politique, soit informée, on finissait la diffusion. Voilà. Bon, c'était D'accord. une méthode un peu particulière de l'époque.
Adaptée à la situation.
Et tout à fait. Mais sinon, bien que j'étais fasciné par la musique, mais moi-même, je n'ai jamais fait de la musique. Ni amateur, ni professionnel, rien du tout. Donc, quand je suis parti, je découvrais tous ces genres de musique, danse et le chant au sein de peuples kurdes. Et j'ai découvert que la musique et le chant a une énorme place chez ce peuple. Quand j'ai essayé d'étudier un petit peu davantage, j'ai vu que même dans leur histoire, ils racontaient que quand le dieu a créé le corps de l'humain, l'âme ne voulait pas rentrer. Donc il y a un des anges qui vient de chanter pour assouplir l'âme pour que ça rentre dans le corps de l'humain. Voilà, bon, pour vous dire que vraiment c'est... Et que quand j'ai lu aussi l'histoire, par exemple, à l'époque de la conquête d'Alexandre, l'historien grec racontait quand ils sont arrivés dans la zone de Kurdistan, il y avait une résistance assez forte parce que les Kurdes se battaient en chantant, en faisant la musique. Bon, ça veut dire qu'il y avait évidemment la musique, le chant en service de combat. Et après, un genre de musique pour l'amour qui est assez incroyable. Après, il y avait aussi la musique et le chant mystique par tous ces différentes confréries soufis qui étaient installées sur la zone frontière d'Iran, l'Irak et l'Asie centrale. Et voilà, donc c'était un monde et aussi la musique et les chants quotidiens, le moment de récolte, le mariage, le deuil, etc. Tout le temps, il y avait la musique, voilà. Donc ça, c'était la première rencontre avec une minorité culturelle dans mon pays. Et évidemment, et ensuite, nous, de retour à Téhéran, nous avions eu beaucoup de problèmes avec la police politique, le SAVAK, donc je ne rentre pas dans les détails, mais quand tu sais, à un moment donné, en opposition avec le régime du Shah, nous, on s'est fait piéger à majorité absolue, à 95%, 90% des Iraniens, par l'ayatollah Khomeini, sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il proposait. C'est-à-dire qu'on était, à l'époque de Shah, on était dans une sorte de modernisme accéléré dans les façades, sans que les fondements de ce modernisme, ça veut dire la démocratie, la vie sociale, soient présents. Donc, évidemment, à partir de là, parce qu'on était quand même à l'époque de Shah, parti unique, et où tout était vraiment avec beaucoup de corruption et répression qui était quand même présent. Et là, évidemment, une absence de démocratie qui permettait pas aux gens de connaître la vie politique, les idées politiques, quelle alternative. Il n'y avait pas d'alternative. Parce que tous les opposants soit étaient emprisonnés, soit en exil, soit, je sais pas, disparus, voilà. Et donc, dans ce sort de vide absolu sur le plan politique, nous, on s'est fait piéger par une idée qui, on est considéré au départ comme quelqu'un qui ressemblait plutôt à Gandhi. Il ne cherchait pas le pouvoir, voilà. Mais très vite, quand ils sont arrivés, ils ont bloqué le pouvoir. Quelques mois après, leur nature s'est révélée de plus en plus. Et on s'est rendu compte que on est face à un régime qui est encore 10 fois pire que le régime du Shah. Voilà. Donc, mon parcours, évidemment, moi, j'étais quelqu'un actif dans ma jeunesse et très vite, j'ai rencontré des problèmes qui m'ont obligé de quitter le pays et venir en France. Voilà mon histoire d'arriver en France. Évidemment, c'est des moments assez incroyables parce que, en plus, je connaissais même pas un mot la langue. La seule chose qui m'a encouragé de venir en France, enfin, deux points. Premièrement, j'avais un ami français qui parlait la langue persane, qui était en Iran, en lien avec les journalistes français, qui pouvaient m'aider pour faciliter. Mais en même temps, à l'époque, on n'avait pas encore, en tant qu'Iranien, on n'avait pas besoin de visa pour venir en France. Ça existait depuis toujours. Après, ça changeait. Mais nous, les Iraniens, pour venir en Europe, nous n'avions pas besoin de visa. Donc ça, c'était un avantage, mais il m'a aidé. Et deuxièmement, une question très importante, c'était un des professeurs de l'université qui avait fait une partie de ses études en France. Quand il nous parlait de la démocratie, il donnait l'exemple de la France, notamment à Paris, où les deux partis, position et opposition, ils avaient leur siège sur le même boulevard. Bon, après j'ai compris qu'il parlait de Parti socialiste qui était rue Solférignon, après RPR qui était rue de Lille, là, ce qui donnait sur le boulevard. Et nous, on disait comment c'est possible. Parce que pour nous, position, c'était le régime de Shoah et opposition était en prison. Donc, comment on pouvait vivre sur le même boulevard? Voilà. Donc, c'était assez mystérieux dans nos pensées de la jeunesse qui existe telle situation que
c'est possible.
C'est possible, position et opposition vivent ensemble, quoi, ou soit ensemble sans violence, sans la violence. Voilà. Donc, évidemment, je suis arrivé, je savais même pas dire bonjour, bonsoir. Je suis arrivé à Paris, Orly, et ensuite par le bus à Porto-Mayo sous le tunnel. C'était le soir, donc c'était triste avec les néons. Et je suis descendu.
Tout seul,
évidemment. Et après, j'ai appelé mon ami français qui m'a accueilli en cherchant une chambre d'Aubonne.
Là, on est en quelle année alors? Quel âge?
80, début 80, j'ai 24 ans. Oui. Et donc là, c'est vrai qu'on a trouvé une chambre à l'époque à Paris Centre. Et moi, quand j'étais à Téhéran, surtout pendant les dernières années, je donnais toutes les dernières cassettes de la musique persane à l'ami en question. Mon ami français, oui, à Téhéran. Il est à Téhéran parce qu'il recevait des journalistes francophones, un peu notre maison était un peu comme le point rencontre. Mm-hmm. Le point rencontre, et c'est moi qui les amenais dans des endroits un peu difficiles, malgré le couvre-feu, pour interviewer les gens. Voilà.
Bon, c'était un peu fixeur, ce qu'on appelle.
Oui, un peu, sans savoir qu'est-ce que ça signifie, mais oui. C'était une relation amicale.
Et là. Et tu leur donnais des cassettes de musique.
Oui, à mon ami qui parlait d'une façon extraordinaire la langue persane, iranienne. Voilà. Je lui donnais les dernières cassettes parce qu'il aimait beaucoup aussi la musique. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais très triste. Donc, cette chambre de bonne, parce que bon, il faut dire, premièrement, je me sentais arraché à tous mes proches, mes amis, et au-delà de ça, même, on avait quand même à Téhéran une maison, un petit jardin, un petit fontaine, enfin, au milieu, et là, pour moi, c'était un peu surréaliste, monter 5 étages pour rentrer dans ma chambre de bonne.
C'est... Oui.
Je lui ai dit, écoute, je t'avais donné beaucoup de cassettes, donne-moi quelques cassettes de la chanson française, enfin de la musique française. Mm. Et là, il m'a filé quelques cassettes. Et il y avait évidemment Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens, Jean Ferrat de l'époque. Il y en avait 4. Et moi, je suis allé à la Fnac. Les Halles étaient
Déjà ouverte.
Je suis allé acheter un magnétophone.
Un magnétophone?
Oui, un magnétophone, oui. Pour écouter les cassettes. Parce que
oui.
Et il y a deux choses qui s'est passées. Quand j'ai écouté la chanson française, évidemment, de Brel, Léo Ferré, Brassin, j'ai eu le sentiment... les mêmes sentiments, les mêmes émotions que la poésie persane. Parce que moi, j'étais très attiré par la poésie persane. C'est que c'est vraiment tous les soirs avant de dormir, il fallait que je lise quelques poèmes. Et en plus, dans notre culture, la poésie a une place énorme, qui est pas pareil en Occident, en France. Mais à tel point que même les gens qui sont en alphabet, même si vous montez dans un taxi, et même le chauffeur de taxi qui n'est jamais allé à l'école, il est tout à fait en mesure de réciter des poèmes de 11e, 12e, 13e siècle, des grands classiques persans, parce que c'est une sorte de transmission orale. Par exemple, le soir, quand on voulait s'amuser avec des amis, les familles, etc., il y a la soirée de la poésie où on se rassemble et chacun commence. Moi, je commence par exemple à réciter un poème. La personne suivante doit prendre dernière lettre et réciter un autre poème. S'il n'arrive pas, il sera, disons, éliminé.
Éliminé.
Oui. Pour enfin, il y en a un qui gagne. Quoi. Vous voyez, pour dire voilà, la poésie, c'est-à-dire on a dans n'importe quelle maison, évidemment, on avait le livre de Hafez ou d'autres grands poèmes persans, une cassette de la musique classique persane, et évidemment aussi le Coran, souvent. Ça veut dire ça s'arrêtait pas du tout juste le livre sacré. Il y avait la poésie, la musique et le livre sacré. C'était un lien dans toutes les familles. Voilà. Donc, bref, donc c'est la chanson française a provoqué cette émotion. Et surtout sans connaître les mots et les vocabulaires français.
Sans le contenu, quoi.
Voilà, sans le contenu. Ah, ça, c'était quelque chose d'assez important. Qui a aussi, c'est parce que vous savez, quand on parle de parcours, il y a des éléments qui vous touchent dans votre parcours et après dans vos réflexions quand vous voulez. Quand je suis arrivé de lancer ma maison de production, etc. Voilà, il y a tous ces éléments qui sont venus après comme des maillons de la chaîne pour, disons, donner une ligne éditoriale. Bon, bref. Il y avait aussi une autre chose qui m'a touché à l'époque à la FNAC. Mm-hmm. Quand j'ai vu les disques et la cassette musique persane qui étaient en vente à la FNAC, ben j'ai dit, ah, les Français, il y en a qui aiment notre musique, notre culture. Et là, je ressentais une sorte de valorisation. Une sorte, disons, sentiment qui était très, très agréable. Une sorte de reconnaissance de notre culture ou de ma culture en train d'arriver. Parce que bon, c'est vrai que quand on arrive de tel pays, dans les pays dits sud ou autres, dans une ville comme Paris, il y a énormément de différences. Ça veut dire que si on n'a pas une sorte de confiance culturelle, nos racines, on peut se sentir un peu, disons, je ne peux pas dire agressé, néanmoins un peu…
Un complexe d'infériorité.
Voilà, tout de suite, ça risque de créer quelques sentiments défensifs. Mmh. Ou soit infériorité, vous dire voilà, d'ailleurs je vais tout oublier, là, c'est là, ou une sorte de sentiment défensif, quoi. Commencer à résister par rapport à la culture qui est la culture de pays d'accueil. Voilà. Voilà, donc je raconte tout ça. C'est pas forcément tout à fait intéressant pour les éditeurs, mais bon, c'est vraiment les ressentis. Et voilà, donc à partir de là, évidemment, j'ai commencé mes activités au fur et à mesure. D'abord, commencer à apprendre un petit peu la langue, aller à l'université à l'époque, Nouvelle-Sorbonne, commençait des cours sur la civilisation du monde arabo-musulman, parce que j'étais curieux, parce que ma question, qui était vraiment très profonde et fondamentale, comment nous, les Iraniens, quand même avec une civilisation assez ancienne, une culture assez importante, comment nous avons pu nous faire piéger par des idées qui sont vraiment réactionnaires, qui prend la religion comme un élément pour provoquer une sorte de recul important dans la façon de vivre et penser des gens. Parce que ce qui s'est passé dans mon pays, je pense que c'est une expérience ou une histoire extraordinaire que dans mon pays d'origine, parce que bon, maintenant, mon pays, c'est la France depuis longtemps, dans mon pays d'origine. Et c'est-à-dire, je vous donne par exemple un exemple, on a une sorte de méconnaissance sur la question de tchador ou foulard ou hijab des femmes. C'est-à-dire, à l'époque du Shah, les familles, quand ils arrivaient, surtout grâce au pétrole, quand il y avait certains développements économiques dans le pays et les gens arrivaient de couches populaires, passaient à la classe moyenne, les femmes ou les jeunes femmes, automatiquement, surtout les jeunes femmes, enlevaient les tchadors et pour pouvoir aller travailler dans la société. C'était quelque chose. En réalité, le tchador, pour 90% des femmes, parce qu'il y en avait évidemment qui portaient par certaines traditions assez religieuses, rigoureuses, etc. Là, je le nie pas. Mais 90-95%, c'était une question sociale. Quand on était pauvre, on portait tchador, parce qu'en plus, c'était pratique. Une femme qui portait tchador n'avait pas besoin de changer plus de vêtements, se coiffer, et un tissu neuf tout de suite faisait l'affaire. On avait l'impression d'être rhabillé de notre façon. Et alors quand il y avait des moyens financiers possibles, on enlevait le tchador volontiers pour passer à la société. Et après, quand Khomeini est arrivé, première chose, disons, première sorte de répression était ciblée contre les femmes en annonçant le hijab obligatoire. Donc, les femmes étaient obligées. Et après, évidemment, il y a eu la première manifestation à Téhéran, c'était la manifestation des femmes contre hijab obligatoire. Mmh. Et là, ce qui était assez impressionnant, Khomeini a réussi à mobiliser les femmes pauvres contre les femmes qui manifestaient contre hijab. Il y avait contre-manifestants. Au-delà des hommes, mais beaucoup de femmes qui portaient tchador. Pourquoi? Parce que on avait alimenté ce sentiment que les femmes qui portent pas de tchador sont des riches. Alors donc, c'est-à-dire, c'était plutôt une sorte de bataille, les pauvres contre les riches. C'est pour ça, parfois, quand j'entends les commentaires sur le foulard, hijab, etc., j'ai l'impression qu'on simplifie beaucoup les choses. Vous savez, on ne va pas un peu dans les analyses un peu plus approfondies pour voir un peu dans chaque société c'est quoi ce phénomène, comment ça se passe, hijab, le foulard, pourquoi, etc. On fait une sorte de catégorie qui est pas vraiment, qui ne répond pas à la question. Bon,
oui,
voilà.
C'est plus complexe que ce que l'on voit.
Oui. Ici. Alors donc, bon, bref. Toutes ces parenthèses, désolé. Alors, donc, en arrivant ici, évidemment, j'étais attiré par la chanson française qui me rappelait un petit peu la poésie persane. Et ensuite, j'ai commencé un peu à la Nouvelle Sorbonne, étudier parce que j'étais curieux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que, de mon point de vue, pour fermer cette parenthèse iranienne, j'ai l'impression les intellectuels en Occident, ils n'ont pas assez travaillé sur l'expérience de la révolution islamique en Iran pour savoir comment un peuple avec autant de civilisation, autant de trucs, d'un coup, se bascule sur une sorte de fondamentalisme, intégrisme, qui est dangereuse premièrement pour le peuple et aussi éventuellement pour les autres, n'est-ce pas? Et ce que, bon, après, on a vu d'autres expériences qui sont passées dans d'autres pays, de culture musulmane, arabe, etc.
Je me disais, l'histoire se répète quand même.
Oui, se répète parce que, bon, ce qui est un peu frustrant, il n'y a pas vraiment le vrai travail pour comprendre ces genres de sociétés de culture musulmane et que, pourquoi, parce qu'il y a une part, c'est-à-dire qu'à partir du moment on soutenait, par exemple, les dictatures classiques, que ce soit en Iran ou en Égypte ou ailleurs, ou qu'on en sait, en Tunisie, évidemment, qui bloquent tout sans aucune démocratie, qui crée une sorte de vide absolu sur le plan politique comme alternative dans les sociétés. À un moment donné, quand le peuple se révolte, évidemment, dans les sociétés culture musulmane, les seuls qui sont en mesure, sur le plan organisationnel, etc., en profiter et voler ces mouvements populaires, ce sont les mouvements islamiques et intégristes, souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réseau terrible à travers des mosquées, à travers des trucs, etc. Et dans ce vide, on essaye de piéger les gens en disant que voilà, ça c'est tous ces nos malheurs viennent de l'occidentalisation forcée de nos dictateurs qui dépendent de l'Occident, etc. Alors si vous voulez sauver, il faut aller vers les valeurs d'origine qui datent du 14e siècle. Alors donc il y a une sorte de retour, on se retrouve encerclé par les idées moyenâgeuses. Voilà. Bon, bref, oui. Pardon. Passons de ça.
Alors, pour reprendre dans le cours de l'interview, donc, on en était à les études à Paris pour essayer de comprendre ce qui se passait justement dans ton pays.
Oui, évidemment, et parallèlement…
Est-ce que tu trouves des réponses alors à ce moment-là
par rapport j'ai évidemment de plus en plus, je comprends même avec les étudiants… discutant avec les étudiants qui venaient de la Tunisie ou d'autres pays maghrébins de culture musulmane, voyez, voilà, la question est très complexe. La question est très complexe et plutôt, ça me confirmait que les tendances vers les idées dites islamiques, parce que bon, la question, pour moi, la religion, c'est quelque chose d'assez important, mais dans une relation personnelle, l'humain avec divin, quelle que soit sa conviction, c'est très privé, c'est très personnel, n'est-ce pas? Tout ce qui est mysticisme, etc., moi, je suis attaché, mais aucun lien avec la politique quotidienne d'un État, etc., etc. Ça veut dire que c'est autre chose. Mais je découvrais en discussion avec les uns, et souvent aussi c'était des étudiants qui étaient opposés au régime de leur pays, que ce soit, disons, tunisien, marocain ou autre, que c'est une sorte de réaction par rapport à la situation. C'est pas une vraie réflexion, vraie conviction qu'on pense qu'avec ces genres d'idées, on peut changer la société dans le sens de progrès économique, social ou autre, ou politique. Mais c'est-à-dire que c'est exactement comme vous êtes en train de vous sentir noyé, rattraper ce qui arrive dans vos mains, quoi. Et le seul truc présent, évidemment, dans ce pays, c'était toujours ce pouvoir de réseau qui réclame l'islam. Après, bon, il y en a tellement de différents courants, évidemment, radical, très très réactionnaire, et puis d'autres modérés ou d'autres, il y a tellement de choses, c'est pas juste aussi une idée, mais forcément c'est toujours dans ces genres de situations les tendances orthodoxes et violentes qui puissent occuper l'espace. Mais tout ça, c'est mon point de vue, hein. Ça vaut pas grand chose, c'est vraiment mon point de vue personnel.
Il y a un parcours fondateur quand même de la personne que j'ai en face de moi, même si on est à distance, se voit en vidéo, et de tout ce que tu as construit. Donc à ce moment-là, tu es étudiant à Paris, et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Il y a deux choses, ça, et d'autre part, j'établis le contact avec les étudiants iraniens qui sont rassemblés, cité internationale, cité universitaire. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? La répression dans mon pays, et après, évidemment, en lien, on fait des rencontres, des discussions, etc., par rapport à la situation, ce qui se passe en Iran, la répression. Il y avait des premières prisonniers politiques, de nouveau, pas anciens, mais de nouveau, qui passaient devant les tribunaux. On essaie ici, avec les associations d'étudiants, essayer de trouver des avocats, convaincre que les avocats partent, par exemple, à Téhéran pour observer un peu les tribunaux. Bon, il y a un peu faire le travail d'information, d'une part, et d'autre part aussi établir des contacts avec les autres mouvements associatives, les ONG, voilà, c'était plutôt toutes ces activités qui m'inspiraient, qui me motivaient dans la vie. Et enfin, après, il y a des rencontres avec des artistes en exil, l'ensemble des choses qui provoquent la création d'une association qui essayait de trouver des moyens d'expression pour ces artistes exilés par le disque, par la musique, par des concerts, etc.
Des artistes tous iraniens ou pas que iraniens?
Oui, mais au départ, ça a commencé par des artistes iraniens. D'accord. Iraniens de différents trucs. Et après, très vite, évidemment, cette idée 95, c'est-à-dire que le point très, très important dans mon parcours, indépendamment des événements liés à mon pays d'origine, c'était la rencontre avec Yehudi Menuhin. C'est là que ça provoquait une sorte d'inspiration chez moi, une sorte de réflexion qui était en lien avec mon parcours et ma vie en France. C'était très différent par rapport à mes préoccupations avant.
Oui. Yehudi Menuhin, donc pour les plus jeunes qui nous auraient rejoints, un immense violoniste, très engagé pour la paix, humaniste, qui a vécu en France aussi.
Bien sûr, en France et en Angleterre. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, parce que c'était très difficile de s'occuper des artistes en exil. Enfin, on essayait d'avoir des fenêtres pour un peu faciliter les choses. Là,
On avait lu
dans Le Monde qu'il était allé jouer gracieusement dans une prison en Autriche, je pense. Mm-hmm. Là, à partir de là, on a préparé une lettre pour envoyer à sa secrétariat à Londres, parce que bon, c'était lors de Menuhin, quoi. Donc, évidemment, c'est 6 mois après qu'on a eu une réponse, en disant que voilà, en demandant un rendez-vous. Le thème était, évidemment, c'était en lien avec les artistes réfugiés. Donc là, sa secrétaire qui a répondu que Lord Menuhin va diriger l'orchestre, je pense, symphonique, le philharmonique à Lille. Ben, mm-hmm. Si vous voulez, bon, on peut vous donner un rendez-vous, il peut vous recevoir. Ben, évidemment, moi, je suis allé à Lille, mais quand nous avons commencé à discuter ensemble, évidemment, ça durait une demi-heure, ça transformait en 2h30, 3h. Et après, il dit, voilà, il devait aller pour la soundcheck, l'orchestre. Et il dit, restez ici, on peut se revoir demain, quoi. Parce que bon, la question, c'est là qu'on avait évoqué. Moi, j'étais aussi accompagné par deux artistes iraniens. Et donc là, on avait évoqué, moi, mon idée, c'était faire une soirée avec les voix des femmes. Les pays où il y a vraiment une répression ou des pays difficiles. Après.
Et là, on est en quelle année? Là, tu parles
95, des voix de la paix. Avant de la paix. Non, on est en 1995 à l'hôtel à Lille, à l'hôtel de Menuhin. Et évidemment, il a dit on se verra demain. Et apparemment, c'était une question importante. Pourquoi on insiste que ça soit des voix féminines? Que c'était oui. L'objet d'une discussion. Bon, et que c'était le soir même, on a expliqué, bon, dans ces jours de société, évidemment, tout le monde est sous la répression, mais les premières victimes sont des femmes pour différentes raisons. Bon, c'était un débat. Oui, oui. On a expliqué, par exemple, surtout en Iran, on pouvait très bien expliquer, bien qu'il y ait une répression générale, mais pourquoi les femmes sont, comment ça s'appelle, doublement, non, on dit, quel est le mot, doublement réprimées, non?
Oui, il y a un cumul de oui. Poids sur elles. C'est voilà. Pour elles, c'est pire, on va
oui,
dire simplement.
C'est pire pour les femmes, la répression des femmes, c'est pire par rapport aux autres, disons, citoyens. Voilà, oui. Aux autres, enfin, aux hommes, quoi, notamment. Oui. Et évidemment, ça, c'était déclencheur de quelque chose qui, après... racontait que même elle a raconté le rôle des femmes dans sa vie pour qu'il devienne Yehudi Menuhin, notamment sa mère, ça c'était assez émouvant. Donc mm-hmm. C'était un point qui a très très bien fonctionné dans la relation et ça a donné la naissance de cet événement qui s'appelait Voix de la paix, Donc, il y avait 5 chanteuses des différents pays du monde, évidemment une iranienne, mais aussi Myriam Makeba d'Afrique du Sud. L'iranienne, c'était Marzieh, Myriam Makeba. Oui, d'Afrique du Sud. Et il y avait Luzmila Carpio de Bolivie, amérindien. Il y avait Esperanza Fernandez, aux chanteuses Zigane. Il y avait Noir. Après, il y avait aussi Ouriaïchi d'Algérie. On était dans la période noire en Algérie avec les guerres civiles, etc., où les femmes risquaient d'être traitées encore d'une façon incroyable par ces mouvements extrêmes qui se, disons, revendiquaient musulmans. Voilà. Et donc, voilà, tout ça, et c'était assez intéressant comme la soirée parce que c'était animé par Yehudi Menuhin. Et chaque artiste interprétait 15-20 minutes sa musique. Et après, il y avait Yehudi Menuhin qui menait un petit dialogue avec l'artiste sur scène, justement sur les sujets, la situation dans le pays, la situation des artistes, etc. Et ensuite...
Mais ça se passait où alors, ça?
Au Cirque Royal, dans une salle magnifique à Bruxelles. Le Cirque Royal, bon, on a fait 2 soirées successives. Et là, évidemment, il avait aussi composé une mélodie pour la chanson finale où toutes les voix et les instruments jouent ensemble. Ce qui était très émouvant à la fin du concert. Le concert se clôturait de cette façon. Évidemment, c'était un succès énorme. Et justement, d'une part, cet événement et d'autre part, les autres activités, lui, il avait un projet que lui-même, il disait, c'est le projet de ma vie, de créer une instance consultative auprès de l'Union européenne et la Commission européenne, composée de représentants des minorités culturelles en Europe. Il disait, voilà, ça, c'est ici, vraiment, c'était un visionnaire, c'est ici, on veut vraiment avancer dans l'intégration de nos composants de nos sociétés européennes, il faut être à l'écoute de la culture de ces minorités et la culture peut jouer un rôle important dans ces genres de démarches. Évidemment, on voit aussi aujourd'hui que c'est très important pour que les gens puissent partager leur culture ensemble pour pouvoir facilement vivre ensemble, quoi, pour ne pas être dans les replis et positions défensives par rapport à différentes communautés. Voilà, bon, ça c'était... Et donc là, évidemment, on a travaillé, enfin, c'est-à-dire à partir de l'Assemblée, quelques assemblées générales à Bruxelles ou à Lisbonne, quand c'était le moment de l'exposition internationale 98, Oui. À Lisbonne, vous voyez, c'est comment s'appelle cet événement énorme qui est
l'exposition universelle.
Voilà, tout à fait. Oui. C'était à Lisbonne 98. Donc chaque fois on avait et lui évidemment vous son poids sur le plan mondial, il discutait sérieusement avec les responsables politiques, les présidents, le président de l'Union européenne à l'époque qui est venu même pour le concert de la Voix de la Paix où il négociait à ce niveau, évidemment. Oui. Personne ne pouvait dire non à Yehudi Menuhin. Mais bon, c'était une idée qui pouvait petit à petit peut-être avancer par lui, mais avec sa disparition 99, personne n'avait ce poids et ce courage de prendre le relais, quoi. Bon, bref.
Donc ça n'a pas été jusqu'au bout.
Non, ça n'a pas donné le résultat qu'il fallait pour arriver à quelque chose de concret, quoi. Ça restait. Et c'est vrai que tout ce parcours, toutes ces réflexions, a provoqué une inspiration. Alors, premièrement, moi, je suis arrivé à cette conclusion que moi, qui pensais que, je sais pas, 1 ou 2 ans après, depuis mon arrivée, la situation changera en Iran, je pourrais rentrer et toujours vivre comme une sorte de nomade prêt à partir.
Oui,
évidemment, à rentrer dans le pays d'origine. Et là, au fur et à mesure, j'étais arrivé à cette conclusion que ce serait pas le cas. Et en plus, je pouvais pas faire grand chose en lien avec le pays. C'est que cette analyse s'est instaurée qu'il faut vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on pensait. Il faut que les choses commencent à bouger à l'intérieur du pays d'une façon sérieuse avec la majorité des gens, etc. Et à partir de là, peut-être les gens à l'extérieur, moi ou comme les autres, etc., peuvent d'une façon ou d'autre se tenir. Mais cette idée de pouvoir jouer un rôle de l'étranger pour le changement, c'était complètement déplacé à partir de certaines périodes. Donc, il fallait que je réfléchisse, je suis dans cette société, je suis un citoyen de cette société française, et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux avoir un rôle plutôt constructif dans cette société, quel que soit, même s'il s'agit de petits rôles. Voilà. Tout ça, c'est, je dis, c'est avant, dans cette période-là, dans cette période-là, que j'avais déposé ma valise et que j'ai commencé à penser vraiment quoi faire dans cette société. Voilà. Donc, c'est là qu'avec tout ce qui s'est passé, la question que je me suis posée sur le plan culturel, quelle est la musique aujourd'hui, demain, dans notre société? Et ça, c'était d'une part en lien avec tous ces débats par rapport à la culture des minorités, d'une part, et d'autre part, par exemple, cette chanson finale, quand je voyais comment les artistes, les musiciens, les chanteuses, quelle que soit leur, disons, appartenance culturelle, ils sont en train de travailler ensemble, partager ensemble avec l'enthousiasme, sans qu'il y ait dominant-dominé. Voilà.
Oui.
Et c'est là l'histoire a commencé pour moi, qui m'a donné une sorte de vision suite à cette réflexion et la création à corps croisé, les accords qui se croisent. Voilà, c'est un petit peu le point de départ.
Donc, c'est le nom de ta société de production.
Que j'ai créé justement en 1997 avec un autre nom, et mais 98, suite à cette réflexion, je l'ai changé en accord croisé.
D'accord, bien. Et alors, accord croisé, donc ça existe toujours?
Oui, ça fait 22 ans, 23 ans maintenant.
Donc là, production disque et concert aussi?
Oui, au départ, c'était la production de concerts.
Oui.
Évidemment, il y avait aussi les artistes Myriam Ekeba, après il y avait aussi Ravi Shankar. C'était des noms ou des artistes dont j'étais vraiment honoré de travailler avec eux.
Oui, c'est des grands noms là.
Oui, des grands noms, mais pas que Trigger. En même temps, sur le plan humain et le rôle, c'était vraiment une sorte de fierté pour moi. Néanmoins, j'avais encore un choix pour m'orienter vers les têtes d'affiche. Parce que déjà, j'avais deux signatures qui me facilitaient ouvrir les portes vers les artistes connus. Ou bien choisir autre chose. C'est vrai que je me sentais pas très utile, malgré énorme respect ou plaisir de travailler avec ces artistes. Je me sentais pas très utile parce que bon, je vendais leurs concerts.
Tu pouvais pas apporter beaucoup plus que puisqu'ils étaient déjà à un stade de notoriété où vous avez plus tellement besoin de.
Oui,
c'était plus des artistes en ce qu'on appelle en développement.
Oui, ils n'étaient pas. C'est-à-dire en plus qu'ils avaient fait leur carrière et même au niveau de inventer ou. Enfin, c'est-à-dire que je voyais pas. C'est-à-dire c'était chaque fois j'étais ému d'être avec eux. Sur le plan personnel, individuel ou autre, mais sur le plan professionnel, bon, oui, c'était un boulot facile. Je vendais le concert, la marge vaut que leur salaire et le contrat étaient aussi élevés par rapport à leur niveau, les marges étaient agréables.
Mais tu étais un peu frustré.
Je me sentais pas tellement utile, quoi.
Bon, oui.
Je travaillais. Ça se transformait en travail pour gagner la vie. Bon, c'est tout, point à la ligne. Parce que moi, même si c'est la musique, etc., bon, c'est vrai que c'est plus agréable de faire d'autres boulots. Néanmoins, à un moment donné, ça devient banal. On vend
des artistes très connus. Quelquefois, ben, je pense à la politique de certaines maisons de disques. Quelquefois, ça permet justement, avec ce que ça rapporte, de remplir un peu les caisses pour pouvoir développer d'autres artistes qui ne sont pas encore connus.
Ce qui était aussi le cas, c'est dans notre cas, c'est-à-dire que nous, avec ces deux artistes, Évidemment, à corps croisé, ce qui émergeait quand on rentrait de l'argent, on le mettait déjà sur les choses. Mais après, c'est ça, c'est-à-dire que ma relation avec Ravi Shankar ou Myriam Ekaba, il y avait un volet relation humaine qui était très important. C'est-à-dire que mes motivations de travailler avec eux, c'était pas en premier lieu parce que on gagne plus.
Oui.
C'était une sorte d'honneur, fierté.
Oui, c'est des gens qui font partie de l'histoire, hein, avec un grand H.
En plus, aussi, sur le plan personnel, il y avait des challenges. Par exemple, je me souviens quand je travaillais avec Myriam Ekaba, on a fait quelques concerts 98, 99, quand je suis allé, je voulais organiser son comeback à Paris. Je suis allé à l'Olympia, j'ai vu Jean-Michel Boris, qui était une personnalité adorable, qui m'a reçu et que j'ai dit, voilà, je voudrais faire Myriam Ekaba, etc. Il m'a dit, bon, moi, je peux pas faire coproduction, etc. parce que la dernière fois, il y a longtemps, quand je l'avais fait, et elle a pas rempli tout à fait, j'ai dit, moi, je sais pas comment c'est passé il y a 10 ans, mais au moins, je suis sûr qu'on va remplir si vous voulez pas coproduction, je peux louer, on fait location. C'est sûr, j'ai dit, moi je suis sûr et certain. Et évidemment, on est parti sur cette version. Moi j'étais très confiant, j'ai contacté les uns les autres, surtout les journalistes, le correspondant de Le Monde en Afrique du Sud, parce que bon, j'ai pensé que le volet, le poids, non seulement artistique, aussi politique de Myriam Ekaba, c'est beaucoup plus compréhensible depuis correspondant de Le Monde à Johannesburg que juste le journaliste adorable, extraordinaire, qui a petit espace sur la musique du monde dans les pages Le Monde, quoi. Donc, évidemment, ça, c'était presque page, deux tiers pages importantes. Après, Nouvel Observatoire, adorable journaliste, Bernard Lupriaz. Donc, on a organisé une interview assez profonde avec Myriam Ekaba sur le volet artistique, pas que aussi son voyage au Guinée ou son histoire au Guinée. C'était, tout ça, ça a tellement fonctionné qu'on était très vite et guichet fermé à l'Olympia. Et ce qui a permis que Jean-Michel Boris soit tout à fait confiant, l'année d'après, on a fait 2 soirées successives, par exemple.
Non, je voudrais dire que... Là, il est en production, alors, sûrement, non?
Non, ce que je voudrais dire, qu'il y a aussi... enfin, je ne sais pas si ce n'est pas par l'arrogance ou, je ne sais pas, ma zone non plus, mais j'ai besoin de dire, voilà, si je fais ça, parce que je suis utile, je peux surmonter certains obstacles. Si c'est quelque chose de facile, évidemment, je ne suis pas contre, mais...
Tu aimes les challenges.
Oui, c'est-à-dire, je pense quand même, mon parcours de la vie m'a poussé vraiment à choisir les choses qui aient des challenges avec une orientation constructive.
Oui, c'est ça. Il y a quand même toujours ça qui revient depuis le tout début.
Oui.
De contribuer à... Comment le formuler, d'ailleurs ?
Contribuer à alimenter le locomotive que j'ai besoin pour avancer.
Oui, mais il y a une notion altruiste qui sous-tend... Parce que quand tu arrives en France, tu aides en Iran, vous montez des associations, des avocats, tout ça, vous voulez essayer d'améliorer ce qui se passe là-bas. Finalement, au bout d'un moment, bon, tu décides de faire ici, mais il y a quand même toujours cette dynamique d'être utile, de contribuer. C'est pas quelque chose d'égocentré.
Non, mais...
Il y a des gens qui arrivent des challenges, mais d'une façon très égocentrée.
Oui, ben, je pense pas, et je souhaite, de toute façon, sans doute, j'ai aussi mon degré égoïste, il est évident. Néanmoins, c'est vrai que je ne... C'est-à-dire... Personnellement, je sens pas des besoins, même si j'ai mes égos. Évidemment, parfois, ça peut me motiver ou provoquer certaines colères chez moi dans les trucs, mais c'est très passager.
Oui.
Ça peut être quelque chose qui peut alimenter des réactions ou des décisions chez moi. de façon momentanée. Mais pour que je puisse me sentir vraiment utile, j'ai besoin des motivations dans la durée, à moyen et long terme, pour avoir envie de travailler. Sinon, je n'ai pas, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui a besoin de grand chose pour travailler, pour vivre. Parce que mon parcours était tel que je peux, vraiment, j'étais jamais préoccupé par de l'aspect financier, sauf quand je lance un projet et que j'ai besoin des moyens pour réaliser ce projet. Et avant ça, il n'y a aucune motivation qui provoquait chez moi pour devenir une sorte de locomotive pour avancer. Donc c'est pour ça que, voilà, donc c'est pour ça. Ou pour Ravi Shankar, 2003, au Théâtre de Champs-Élysées, c'était parce que sa maison de disque qui venait sortir le disque trouvait... Ravi Shankar voulait retourner à Paris, au Théâtre de Champs-Élysées, parce que c'était le premier lieu où il avait fait son premier concert avec son frère à l'âge de 11 ans, des années 30. 11 ans, il avait 11 ans. Son frère, Oday, qui était danseur, avait un concert aux Champs-Élysées et Ravi Shankar vient aussi de participer dans son concert, comme artiste à 11 ans. Et évidemment, après, il est passé quelques années en France aussi, il parlait même la langue française. Et là, il avait envie de retourner au Théâtre de Champs-Élysées, mais la maison de disques à qui il avait demandé d'organiser ce concert trouvait risqué financièrement. Parce que bon, il fallait payer un Shankar, il fallait louer, machin, etc. C'était un gros budget. Alors quand j'ai entendu ça, j'étais un peu révolté quand même. Comment ça se fait que dans notre pays, à Ravi Shankar, vous jouez à Champs-Élysées ou...
oui. Un bon challenge à relever.
Donc là, j'ai fait un budget prévisionnel avec une sorte d'estimation. J'envoyais, voilà. Moi, je peux le faire à condition, voilà, si on arrive à telle recette, tel montant pour vous, etc. Ça. Il a accepté. Il a accepté, on a lancé. Évidemment, on était aussi des guichets fermés. Donc, il y avait un seuil maximum, par exemple, qui provoquait, par exemple, 30 000 euros ou 40 000 euros pour lui, je ne sais pas, pour les artistes. Parce que les places étaient chères. Quand même, c'était Ravi Shankar, Théâtre de Champs-Élysées, on était obligé de mettre des places quand même à certains niveaux. Carré or, ceci, cela, maman, oui. Tout ce truc. Et là, le soir de concert, évidemment, on était guichet fermé, les gens insistaient à avoir une place, ceci, cela, c'était assez difficile, que ce soit le public, que ce soit des amis, enfin, c'était assez... Bon, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut dire non. Ben... Et là, je découvre par le directeur de théâtre qu'il y a une partie des places à Vogue, où... pas très visible, c'est au Théâtre de Champs-Élysées, comme les places qu'on a aussi à l'Opéra, qu'on ne voit pas grand-chose, on voit
un peu... Ah oui, qui ne sont pas très bien placés, quoi.
Évidemment, ils n'étaient pas considérés comme des places dans le plan de la salle, on ne met pas en vente, sauf dernière minute, si les gens y veulent. Alors j'ai dit, bon, mettons en vente à 15 euros à l'époque, pour tous les gens qui Et là, c'est une décision dernière minute. Donc forcément, le lendemain, quand je suis allé rendre compte sur la billetterie et le résultat pour le concert de Ravi Shankar à l'hôtel, Georges V à côté, et le montant qui restait était plus élevé par rapport au montant maximum qui avait été prévisionné. C'est pas grand-chose, c'était peut-être 1000 euros ou plus. Mais là, il comprenait pas. Parce qu'il dit, c'est avant, ça n'est jamais arrivé. Parce que toujours, quand c'est maximum, c'est plafond, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour... Et après, je lui ai raconté l'histoire. Bon, on a découvert qu'il devait. Et c'est forcément... Et je sais pas que accepter faire le concert et ces petits incidents des montants supplémentaires a créé une relation personnelle qui était aussi très intéressant. Une confiance avec Ravi Shankar, voilà, oui, tout à fait. Donc, ça me donnait cette permission, parce que parfois, son concert à l'époque, on devait vendre 80 000 euros. Mm-hmm. Il y avait des lieux où on vendait 80 000 euros. Mais à un moment donné, je pouvais aussi organiser pour, par exemple, un festival en France comme Soudarl à 40 000 euros. Au moins, ça veut dire qu'il y avait une sorte de confiance qui permettait de donner une place à un point de vue qui n'était pas des doutes financiers. Bon, pardon, je ne sais pas, je rentre beaucoup dans les détails, mais ça restera pour nous. Hein.
D'entendre des détails de Ravi Shankar en France. C'est la fin de la première partie de l'interview de Saïda Sadi. Je vous donne rendez-vous pour écouter le deuxième épisode dans lequel nous parlerons de la suite de son parcours et bien sûr du 360 Paris Music Factory à Paris. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.